Imaginez une seconde. Une image, une caricature de propagande. On ouvre la tête d'un soldat allemand et à l'intérieur, il n'y a pas de cerveau.
Non.
Non, il n'y a qu'un assemblage de canons, de fumée, d'armes. C'est mécanique, c'est glacial. Et la question qu'on se pose tout de suite, c'est comment on a pu en arriver là, à représenter un être humain de cette façon ?
C'est une image qui nous plonge directement au cœur de notre sujet, en fait. Parce que la Première Guerre mondiale, ce n'était pas seulement une guerre militaire dans les tranchées.
Non, bien sûr.
C'était aussi une guerre des images, une guerre des esprits. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment, des deux côtés du Rhin, on a littéralement fabriqué cette figure de l'ennemi, comment on a transformé le voisin en monstre. Et pour comprendre cette mécanique, je pense qu'il faut d'abord regarder l'image la plus brutale, celle qui a marqué les esprits en France, l'Allemand en barbare.
Oui, on va explorer ça. Et ensuite, on verra comment l'Allemagne a bien pu riposter face à un portrait aussi monstrueux. La réponse est assez fascinante.
Tout à fait. Et on verra que ces images, loin d'être anecdotiques, ont laissé des cicatrices très profondes, bien après 1918. Alors, commençons par ça. Ce cliché du Boche barbare. On le voit partout sur les affiches françaises. Il pille, il brûle, il s'attaque aux civils. On a l'impression que cette image sort de nulle part en 1914. Mais j'imagine que c'est plus complexe.
Ah oui, beaucoup plus complexe. En réalité, 1914 ne crée pas cette image. Elle la réactive de manière absolument spectaculaire. Le terreau était déjà là.
Il faut remonter avant, hein.
Il faut remonter à la guerre de 1870. La défaite, l'humiliation et surtout la perte de l'Alsace-Lorraine. C'est vécu comme une véritable mutilation du pays, vous voyez ?
Oui, bien sûr. Ça a créé un traumatisme immense. Le Prussien est alors devenu l'ennemi héréditaire, l'Erfeind, comme disent les Allemands. Donc l'image du soldat brutal, arrogant, elle vient de là. La propagande de 14 n'a eu qu'à rouvrir la blessure.
Et ça se voit même dans les mots. Je pense au mot « Bosch » qui devient omniprésent. D'où ça vient exactement ?
C'est plus qu'une simple insulte, non ?
Absolument.
Et c'est fascinant de voir comment un mot d'argot devient une arme psychologique. En fait, « Bosch » est un raccourci.
Un raccourci de ?
D'Al-Bosch. C'est une construction avec « al » pour allemand et le suffixe argotique « Bosch » qui vient très probablement de « caboche ».
La tête, ouais.
Exactement. L'expression « tête de Bosch » existait avant la guerre et ça voulait dire « tête de bois ».
Une tête dure, un esprit un peu…
Obtus.
Précisément. Têtu, stupide. Et la caricature que vous décriviez au début, ce qu'il y a dans leur caboche, c'est l'illustration parfaite de ça. Elle nous dit « voilà l'Allemand ». Ce n'est pas un être humain avec des émotions, une famille, non. C'est une machine à obéir et à détruire. Un automate sans conscience.
C'est ça. On lui nie toute humanité, toute pensée complexe.
C'est vertigineux. On passe de la tête de bois à la négation de l'humanité. Et j'imagine que c'est la porte ouverte à des accusations bien pires.
C'est le glissement logique. Une fois que l'ennemi n'est plus tout à fait un homme, on peut lui prêter n'importe quoi. Et on arrive au mythe le plus célèbre et le plus sombre, celui des mains coupées.
Ah oui !
Des rumeurs, massivement reprises par la presse, racontent que les soldats allemands coupent systématiquement les mains des enfants belges et français. C'est d'une violence absolue, occitée contre les civils en Belgique. C'est un fait. Mais ces histoires de mains coupées de manière systématique, ça relève du mythe.
Ça n'avait pas d'importance que ce soit vrai, en fait.
Aucune importance. L'objectif était de créer une fracture morale. D'un côté, la civilisation, la France. De l'autre, la barbarie, qui mutile des enfants. On ne négocie pas avec un monstre, on l'extermine. Voyez la logique ?
C'est une logique de guerre totale, y compris sur le plan moral.
Exactement. Et à ce mythe s'ajoute tout le reste. L'Allemand est un pilleur, obsédé par les pendules. C'est un cliché qui vient aussi de 1870. Un ivrogne, un violeur. On va même jusqu'à des accusations eschatologiques. Comment ça ? Le pain de Dieu à l'allemand, le Kriegskartoffelbrot, pain de pommes de terre, était abrégé caca. Je vous laisse imaginer les jeux de mots faciles et dégradants en français.
D'accord, je vois. Chaque détail est utilisé pour déshumaniser.
Chaque détail.
Alors, face à ce portrait d'un monstre absolu, d'un barbare mécanique et cruel, comment la propagande allemande a pu réagir ? Quelle a été leur stratégie ?
C'est une excellente question, parce que leur contre-propagande est très révélatrice. Ils ne se sont pas contentés de nier. Ils ont mené une contre-offensive sur deux fronts.
Le premier ?
Le premier, c'est l'autoportrait positif. Construire une image à l'opposé total du Bosch. Le soldat allemand est dépeint comme discipliné, oui, mais aussi calme, pieux, courageux. C'est un père de famille qui défend sa patrie, sa Heimat.
C'est l'image qu'on retrouve sur les cartes postales, c'est ça?
Exactement. On a des tonnes de cartes postales montrant des soldats allemands qui partagent leur pain avec des enfants français dans les zones occupées. Le message est clair. Nous ne sommes pas des barbares. Nous sommes des hommes civilisés. Donc d'un côté, une image d'humanité.
Mais ils ne se sont pas arrêtés là, j'imagine. Il y avait une contre-attaque plus agressive.
Et c'est là qu'on touche au deuxième front. Une tactique redoutable, le miroir inversé. Les Allemands ne se contentent pas de dire « nous ne sommes pas des barbares ». Ils vont chercher qui est le vrai barbare dans le camp d'en face. Et leur cible ?
Leur cible, ce sont les troupes coloniales de l'armée française.
Les tirailleurs sénégalais, par exemple ?
Précisément. Pour la propagande allemande, ils deviennent l'incarnation de la sauvagerie. Et là, on assiste à un déchaînement de racisme complètement explicite. Vous avez un exemple ?
Oui, une caricature du journal satirique Kladradach. Elle s'appelle « La civilisation de l'Europe ». Elle montre un soldat noir avec des traits totalement caricaturés, presque simiesques, présenté comme un cannibale en puissance.
Le message est donc d'un cynisme absolu.
Total. Ça dit « Regardez la France. Elle prétend défendre la civilisation, mais elle déchaîne sur l'Europe des hordes de sauvages africains. »
Et donc, c'est la France, la vraie barbare.
C'est elle, la vraie barbare, qui menace la pureté raciale du continent. L'accusation est retournée à l'envoyeur en mobilisant les pires préjugés racistes de l'époque.
On se retrouve donc avec une situation complètement folle. Des deux côtés, l'ennemi est déshumanisé. Une fois que les canons se taisent en 1918, qu'est-ce qu'il reste de toute cette haine ?
Il en reste des mentalités profondément empoisonnées. Cette propagande a rendu toute paix négociée quasiment impensable. Comment faire la paix avec un monstre ?
Le fossé est trop grand.
Immense. En Allemagne, le sentiment d'avoir été diabolisé injustement va nourrir un ressentiment terrible. C'est le terreau parfait pour le rejet du traité de Versailles et pour le mythe du coup de poignard dans le dos.
Et du côté français, cette image du barbare a aussi eu un impact.
Énormément. Elle a justifié la nécessité d'une paix très dure, punitive. Il fallait mettre l'Allemagne hors d'état de nuire. La propagande a vraiment rendu la réconciliation impossible à court terme. Et ce qui est terrible, c'est que ces images ne disparaissent pas en 1918. Non, elles ont une vie après la guerre. Le discours raciste allemand contre les troupes coloniales, par exemple, va connaître une suite terrifiante dans les années 20.
La honte noire.
La honte noire. La Schwarzschmach. Quand la France occupera la Rhénanie avec des soldats africains, la propagande nationaliste allemande se déchaînera.
On voit très bien le lien avec ce qui va suivre.
Le lien est direct. Cette obsession de la pureté raciale, cette haine construite en 14-18, c'est l'une des matrices de l'idéologie nazie. La Grande Guerre a servi de laboratoire.
On comprend donc que cette guerre des images a été aussi décisive que la guerre des tranchées. Elle a creusé des blessures dans la psyché collective qui ont mis des décennies à commencer à guérir.
Absolument. C'est pour ça que ces caricatures, ce ne sont pas juste des illustrations. Ce sont des documents historiques fondamentaux.
Elles nous disent autre chose.
Elles ne nous disent pas la vérité des faits, mais elles nous révèlent la vérité des mentalités collectives. Elles montrent, presque à nu, comment se construit la haine, comment on prend des peurs, des préjugés, et on les transforme en images assez puissantes pour envoyer une société entière à la guerre.
Et ça nous laisse avec une dernière pensée, je crois. Quand on met autant d'énergie à représenter l'autre, non seulement comme un ennemi, mais comme un être inhumain, que ce soit une machine ou un sauvage, comment une société peut-il, une fois les armes déposées, réapprendre à le voir simplement comme un voisin ?